Espace 2, Marseille 2013. Babylone. Nancy Ypsilantis.
Bonjour et bienvenue à bord de Babylone, bienvenue sur les rives de la capitale européenne de la culture. 1, 2, 3, Marseille, c'est le soleil qui vous est offert aujourd'hui par la rédaction culturelle de la RTS. Aujourd'hui, la culture, elle est, ma foi, Sarah Dirène, chère capitaine, la culture est toute aquatique.
Est-ce que le Marseillais est un marin ?
Il y a 3000 bateaux dans le port et il y a 1 million d'habitants.
Venant de Suisse, lorsque je me dis, bon, je vais en Bretagne, je vais à Brest, ce sont des marins. Je suis à Marseille, je me dis pas, mais bah, tiens, le Marseillais est marin. C'est drôle. Est-ce qu'elle est fausse, cette image ? Mais justement, est-ce qu'elle est fausse ?
Parce que la Méditerranée était la mer la plus dure qui existe. Et donc les marins, c'est ceux qui savent affronter des mers difficiles. Et les Bretons, avec tout le respect que j'ai pour les Bretons, ils ont une mer d'huile. Voilà, ils n'ont pas une mer comme chez nous. Et quand ils viennent naviguer ici, ils ne savent plus où ils sont. Donc ce n'est pas une baignoire ici. C'est une vraie mer. Ce n'est pas une mer longue. Voilà.
Nous sommes à quai sur l'Inga de Rio. C'est un immense bateau de 33 mètres, 5 de large. Un bateau finlandais construit en 1928. Peut-être que vous entendez le bois du vieux gréement au-dessus de nos têtes. Avec moi, Christine Breton, historienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur honoraire du patrimoine ici à Marseille. On est à l'Estac. Est-ce que c'est encore Marseille ?
Ah, vous savez, comme il y avait des peintres et des choses très célèbres à l'Estac, on a dit que c'était pas Marseille. On avait décidé comme ça.
Pourquoi ? Parce que les peintres ne méritaient pas d'être marseillais ?
Parce que c'est les calanques. C'est le même principe que pour les calanques. Quand il y a des choses belles, c'est pas à Marseille. Les calanques sont à Cassis et les peintres sont à l'Estac. Alors que tout ça est à Marseille. Vous comprenez quelque chose ?
Non, mais vous allez nous servir de guide, Christine Breton. Marseille, c'est une des plus vieilles villes de France, une cité qui est née de la mer il y a 2600 ans. Mais paradoxalement, il n'y a pas d'eau à Marseille.
Oui, ça aussi, c'est un grand paradoxe. Quand la ville, au 19e siècle, juste avant que l'eau de la Durance arrive avec le canal de Marseille, dans cette ville, les gens avaient des caisses à eau dans les appartements, et effectivement, il y avait un manque d'eau douce absolument terrible. Et quand l'eau est arrivée, ça vous donne ce merveilleux mise en scène de l'eau, et c'est le palais Longchamp. Les grandes cascades qui descendent comme ça, et qui après descendent le boulevard, qui va descendre après jusqu'à la mer. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui donne vraiment la dimension de l'importance de l'eau douce dans cette ville.
Alors derrière nous, la Méditerranée, devant nous, enfin juste à côté, le canal du Rove.
Ah oui, oui, sous les quatre arcades que vous avez là-bas. Hein. Mm-hmm. Le canal du Rove, c'est bien d'ailleurs, votre bateau est magnifiquement positionné parce qu'on voit très très bien non seulement le canal du Rove, son arrivée sur Marseille, mais aussi juste à l'étage au-dessus, dans la falaise, vous avez la voie de chemin de fer qui apparaît, disparaît. Et les deux ont été construits ensemble. Essayez d'imaginer cette grande falaise au tout début des années 10, 1910, 1915, 1911. Vous aviez des milliers de personnes qui travaillaient à la voie de chemin de fer qui contournait comme ça par la Côte Bleue. Et dessous, le canal du Rove, qui n'est pas rien, c'est 7 km de long, 24 mètres de large. Donc vous imaginez 3000 personnes, italiens, espagnols, qui bossent là-dedans et qui travaillent au pic et à la dynamite. Beaucoup d'accidents, chose qu'on sait, qu'on commence à savoir quand même un peu plus. Et l'un et l'autre étaient ensemble. Ces deux chantiers étaient ensemble. Ça devait être absolument extraordinaire. D'autant que la colline était, elle aussi, complètement mangée par l'usine qui est juste à côté. Donc ça montre un petit peu l'énergie qu'il y a sur cette roche calcaire.
Cette usine qui est juste au-dessus de nous, qui, bien sûr, fabriquait énormément de choses, mais qui déversait énormément de produits très toxiques dans cette Méditerranée.
Oui, là, vous savez, c'est depuis le 19e siècle, c'était Rio Tinto. C'était une très vieille usine de produits chimiques et qui fabriquait un produit fou, c'est l'arsenic. Et parce que ça servait pour la fabrication des peintures de bateaux. Donc on a cette colline aujourd'hui est entièrement mangée par ces produits-là. Et vous voyez ce que vous avez sous les yeux, vous avez une folie de notre temps présent, je trouve. C'est la dépollution de toute cette colline et de toute cette falaise. Et ça vous donne ça, ça vous donne cette espèce de truc qui n'a pas de forme. On ne sait pas ce que c'est tout blanc, c'est méchant. Si je puis me permettre.
Et toutes les choses qu'on ne sait pas, puisqu'on déversait ces produits par 2000 mètres de fond dans la Méditerranée, on ne peut pas encore aller jusque-là, même si aujourd'hui, Sarah Diren, vous allez nous entraîner entre 7 à 700 mètres de profondeur.
701 mètres de profondeur, précisément grâce à la Comex. C'est une entreprise marseillaise qui rayonne dans le monde entier et qui a été vraiment pionnière en exploration sous-marine, sous l'eau. Eh bien, on va y rester avec un travail photographique sur la biodiversité marine dans le port de Marseille, Marseille-Fosse. Nous irons aussi à la station marine d'Andoum pour voir comment se porte cette Méditerranée. On y jettera même un regard politique, mais d'abord, rencontre avec Baptiste Nanaspez, l'instigateur du fameux GR 2013, ce sentier de grande randonnée. C'est plus de 350 km à travers l'urbain et la nature. Une rencontre au bord de l'eau. Quoique c'est jamais simple d'avoir les pieds dans l'eau à Marseille.
Je pense qu'il peut se passer des choses au bord de l'eau, moi.
Pourquoi, Baptiste Lanaspez, vous avez tourné le dos au littoral pour le GR 2013?
De façon générale, le propos de ce GR 2013, c'était d'explorer l'interface entre ville et nature. Donc à ce titre, le littoral aurait pu être effectivement un endroit privilégié, puisque le littoral, c'est bien l'endroit où tout d'un coup la ville s'arrête et la nature reprend ses pleins droits, des droits d'autant plus pleins que l'eau est quand même difficilement constructible. Donc même devant les appétits des promoteurs, c'est quand même difficile. Mais pour autant, suivre le littoral de Marseille dans les quartiers sud n'était pas intéressant puisque ça nous obligeait à suivre la corniche. Là, c'est un truc très pratique. En fait, on suit plus ou moins le littoral dans les quartiers nord parce que là, on a un propos intéressant à construire autour du port industriel avec des endroits peu connus pour les piétons. En revanche, au côté sud, suivre le littoral nous aurait conduit à suivre cette route en corniche qui est très belle et que j'aime beaucoup, mais qui, pour le coup, était un peu trop évident comme passage et en plus, pour le coup, très voiture-voiture avec pas mal de nuisances sonores. Là, on s'éloigne un tout petit peu du tracé officiel du GR 2013, on s'éloigne de 500 mètres pour aller dans un petit coin du Vieux-Port qui est en fait pas loin, mais qui est un tout petit peu à l'écart. Les gens vont moins spontanément. Et c'est clair que c'est un truc qu'on avait beaucoup en tête au début. Je sais pas si après on a réussi à bien le mettre en œuvre, mais l'esprit du GR 2013 au départ, c'était vraiment d'inviter les gens à explorer par la marche cette ville et ses alentours. C'est-à-dire que c'est clair que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'inviter les gens à tracer leur propre route, trouver leur chemin. Et donc là, c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est sorti du tracé. On n'est pas du tout sorti de l'esprit du projet.
Est-ce qu'on va pouvoir mettre les pieds dans l'eau? C'est ça le but.
On va voir. L'eau, enfin, disons que la relation de l'eau avec Marseille, ouais, c'est un peu ambigu parce qu'elle est à la fois partout et nulle part, quoi. Ça dépend de l'angle sur lequel on regarde la chose.
Parce que c'est drôle, quand on est quelques jours à Marseille, on demande aux Marseillais ce qu'ils sont. Ils sont Marseillais, ils sont Méditerranéens, ils sont Français. Eh ben, ils sont Marseillais, mais ils sont Méditerranéens, disent-ils. Donc ils tournent le dos à la mer, mais en même temps, ils ont...
Mer, ouais.
Voilà, mais en même temps, ils ont... Quel rapport ont les Marseillais à leur mer?
Non, mais enfin, moi, je ne vais pas parler pour les Marseillais parce que c'est trop compliqué, mais je peux vous témoigner en tant qu'habitant de Marseille. C'est vrai qu'au début, quand on découvre la vie à Marseille, on est très, très attiré par la mer, qui donc sollicite beaucoup l'attention, on y va souvent et tout ça. Et en fait, elle a quelque chose de corrosif, un peu, des fois un peu fatigant aussi. Et on a tendance parfois, après, au bout de quelques années de vie à Marseille, à lui tourner un peu plus le dos parce que le large, c'est toujours aussi un peu violent, un peu, je sais pas. En tout cas, moi, je le sens très fortement. J'y vais un petit peu moins avec le temps. On s'en protège un peu plus. Mais je sais pas si c'est un phénomène psychologique personnel ou partagé par mes compatriotes. On n'en parle pas tellement non plus.
Une Méditerranée corrosive, est-ce que vous partagez aussi ce sentiment, Christine Breton ?
Bien, ça me fait plaisir qu'on entende enfin des adjectifs comme ça, parce qu'il y en a marre de la Grande Bleue, les pieds dans le sable, etc. Et pour moi, la Méditerranée, c'est le passage des migrants et c'est les bateaux. Et c'est le seul passage qu'on ait en Méditerranée en ce moment, vivant.
Sarah Dirène, la grande question, est-ce qu'il existe encore des Marseillais ici, à Marseille, qui sont méditerranéens?
Qui se sentent méditerranéens? C'est effectivement la question que j'ai posée à Jean Villard, qui est sociologue, économiste de formation, écrivain, mais aussi politicien. Et en tant que spécialiste de la mobilité, Jean Villard a aussi été en charge de la réhabilitation du vieux port.
Pourquoi à Marseille, dit-on toujours, on n'entend pas l'eau à Marseille?
Mais parce que si vous voulez, on ne regarde jamais son lieu de travail par la fenêtre. Le paysan avait toujours des petites fenêtres. L'ouvrier habite pas en face de son usine, sauf s'il est obligé. Donc ici, la ville est fermée à la mer, parce que la mer, c'est là où on travaille. D'ailleurs, quand on est sur le vieux port, on ne voit pas la mer. Il y a juste un endroit où on voit la mer, si on sait. Il y a un endroit où l'œil peut passer. Et toutes les villes étaient comme ça. Regardez Nice. Qui c'est qui a ouvert Nice à la mer? C'est les Anglais. C'est pour ça que ça s'appelle la promenade des Anglais. Nous, la corniche, elle a été faite par de fer. Avant, on regardait pas. Et actuellement, on est en train d'ouvrir la ville à la mer. Pourquoi? Parce que ça devient d'abord une ville de qualité de vie, de ludisme, d'imaginaire de la plage. Mais si vous voulez, il y a toujours la mer, il y a deux mers. Il y a la mer de la fille en monokini sur la plage, c'est une mer. Et puis il y a une autre mer, c'est le mec qui bosse, qui porte des caisses, qui travaille dans un bateau. C'est pas la même mer. Et la ville, elle est en train de passer de la mer de travail à cette ville, on va dire, ludique, comme toutes les grandes villes du monde, d'ailleurs. Et donc, elle est dans ce basculement petit à petit. Mais la mer, si vous voulez, toutes les villes se réorganisent autour de l'eau. C'est l'élément moderne. Regardez, à Paris, on a travaillé les quais, à Lyon, on fait les quais, nous, on sait complètement, on a refait le vieux port et on s'ouvre à la mer. Mais c'est vrai dans toutes les villes européennes. Parce que les villes européennes sont transformées par le temps où on ne travaille pas. Et le temps où on ne travaille pas, il est construit par ce qu'on a appris pendant les vacances. Et donc, par les codes des vacances, par l'eau, par le vêtement un peu léger, un peu souple, par des liens sociaux assez souples, assez légers, on peut boire un coup avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, etc. Comme dans un camping. Moi, je dis la ville moderne, c'est Haussmann plus le Club Med. Et une ville qui marche bien, c'est quand au même endroit, à des moments différents de la journée ou de l'année, on est soit au Club Med, on fait faire du vélo, on peut aller au bord de l'eau, etc. Soit on est chez Haussmann, ça veut dire qu'on va travailler, on amène ses gosses à l'école, on va voter, etc. Et au fond, la ville moderne, c'est le rapport entre les deux. Et les villes où il n'y a que Haussmann, ça ne marche pas bien. Les gens s'en vont, ou alors ils vont une deuxième maison, comme le cœur de Paris, bon, presque tout le monde en résidence secondaire. Ou alors, effectivement, les grandes banlieues populaires, il n'y a que le travail et le domicile, c'est des quartiers insupportables de violence. Donc comment est-ce que partout, on permet d'avoir à la fois des éléments de la vie de travail et en même temps, la qualité de vie d'une société où on a énormément de temps libre, de liens sociaux, de rencontres hors du travail. Et c'est toute cette construction de l'usage du territoire qui fait qu'une ville marche bien.
Est-ce que le Marseillais est encore ou toujours, Jean Villard, un méditerranéen?
Moins qu'avant, si vous voulez. On était très méditerranéen jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. On se définissait comme méditerranéen parce que cette ville, elle était très liée, elle n'a jamais été coloniale. Nous, on n'était pas pour la colonie ici. On en a énormément profité. Mais on n'était pas parce qu'on travaillait avec l'Algérie depuis des siècles. Il faut se rappeler toujours que Saint-Augustin était algérien, etc. Donc, si vous voulez, la Méditerranée n'était pas cassée. La colonie a cassé la Méditerranée. Et la colonie, c'est la fin du 19e. Donc, ici, on a été méditerranéen jusqu'à la fin de la colonie. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a peur d'en face pour comment? Parce qu'ils sont pauvres. Parce que nous, on est des Arabes dans la ville, on en a plein. Donc, c'est pas forcément ça qui nous fait peur. Ce qu'on a peur, c'est de la pauvreté d'en face. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis avec le Mexique. Vous avez sur cette planète des grandes lignes de fracture entre la richesse et la pauvreté, entre les sociétés. Il y en a aussi dans les sociétés, mais entre les sociétés. Et les gens qui sont en frontière ont peur d'en face. Parce qu'ils ont peur qu'en face les attire, les assimile. Et ici, effectivement, on est toujours très très marseillais, mais on est beaucoup plus français qu'avant. Donc avant, le premier parti sur la ville, jusqu'en 1981, c'était le Parti communiste. Et aujourd'hui, c'est le Front National. Parce qu'on dit « je suis français ». Qu'est-ce qu'on fait quand on vote Front National? On vote pour la nation, donc on vote pour la terre contre la mer. Alors qu'avant, quand on était communiste, on était du monde du travail. Le monde du travail, c'était le port. Donc on était dans le monde de l'eau, mais de l'eau du travail, pas de la nageuse. Et on a changé de valeur politique pour définir qu'on changeait de territoire.
Christine Breton, Jean Villard parle de cette Méditerranée cassée par la colonisation. Ça veut dire qu'elle ne joue plus son rôle de liant, de réunificateur, de métissage culturel. Elle, c'est une machine à intégrer.
C'est compliqué, vous savez ce que vous êtes en train de demander. En vous entendant parler, j'ai cette petite phrase de, au sujet de Camus dans la tête qui dit « Ce qu'ils n'ont pas aimé de moi, c'est l'Algérien ». Et je crois que c'est donc beaucoup beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de face à face, c'est pas vrai. Il y a une interaction sans arrêt de l'un à l'autre. Cet immense philosophe était algérien et il s'est fait casser par l'intelligentsia parisienne parce que algérien. Et ainsi pour des milliers, voire un peu plus même, millions de personnes en 62. Donc il y a des choses comme ça qui sont hyper compliquées. Moi, j'ai plutôt envie de dire, vous savez, dans les années 20, en Allemagne, il y avait un architecte utopiste qui avait décidé de construire un grand barrage dans les colonnes d'Hercule, là, le détroit de Gibraltar, pour arrêter donc l'eau de l'Atlantique et faire un Afrique-Europe. Eh bien, ça, c'est des images que j'aime beaucoup parce qu'elles remballent toute cette armée de poncifs, excusez-moi, hein, je ne veux pas avoir l'air maligne en disant ça, mais c'est vrai qu'on nage un peu dans le poncif, dans cette mer bleue, hein, qui n'est pas toujours bleue d'ailleurs.
Mais c'est cette mer qui a fait la richesse de Marseille.
Vous savez, il y avait le canal de Suez à l'autre bout de la mer, hein, et l'essentiel de l'économie portuaire s'est faite via le canal de Suez. Un exemple tout simple, en 1914, les premières troupes coloniales anglaises arrivent à Marseille. Et elles arrivent d'où ? Elles arrivent d'Inde et elles arrivent par où ? Elles arrivent par le canal. Et après on sait où elles vont aller, quoi, en plein hiver et se faire trucider là-haut au nord de la France. Donc il y a quelque chose qui n'est pas aussi simple que ce que l'on veut bien le dire. Parce que je pense qu'on n'arrive pas à découper un contexte qui permettent de voir à la fois philosophiquement, historiquement et poétiquement. Je crois que c'est ça qui nous manque. Mmh. Voilà. Un petit exemple, il est sous nos yeux. 1880, quand Cézanne s'installe ici à l'Estaque, il ne s'installe pas à l'Estaque parce que la maison est moins chère, etc. Non, il s'installe avec sa maîtresse pour protéger ses amours, mais aussi parce qu'il a besoin d'un contexte industriel. Voilà, et il va faire là une révolution fondamentale, c'est-à-dire le retournement de la ville. On va regarder pour la première fois Marseille depuis le nord. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et ça c'est valable pour Marseille, c'est-à-dire Marseille n'est pas une entité complète, c'est pas vrai. C'est un port, c'est un entre-deux. Et là je pense que on tient peut-être un tout petit début d'image.
Allons sous l'eau. Richesse sous-marine, extrait d'un livre « Une vie dans le port de Marseille », je cite « J'ai trouvé là des réfugiés, des rescapés, des robustes, des profiteurs, des opportunistes, des pilleurs, quelques délicats et même des fragiles. Le port, c'est déjà la mer et c'est signé Laurent Balesta ».
Oui, qui est biologiste, plongeur, un livre avec de très très belles photographies de nacre, par exemple, de lièvres marins. Des photographies qui ont été prises sous le port de Marseille-Fosse. Et je l'ai rencontré les pieds dans l'eau, yes, les pieds dans l'eau, en compagnie de quelques crabes.
C'est chaud, enfin.
C'est le crabe vert, le crabe enragé.
Il y a des moules, là. Il y en a un là dans le trou, ça glisse.
On
va manger cela.
Aïe!
Ça passe un petit peu.
Partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Quoi. C'est aussi simple que ça. La moindre flaque, elle abrite de la vie. Voilà, dans l'eau, il y a de la vie. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce travail que m'a demandé le grand port maritime de Marseille. Moi, j'ai d'abord vu mon plaisir personnel, je le reconnais. Et tout à coup, je savais que j'allais avoir accès à des zones totalement interdites à la plongée. Presque mieux surveillées qu'une réserve naturelle, pour les risques terroristes, pour les risques sanitaires en général, de pollution chimique, toujours potentielle. Hein. Et donc, du coup, c'est extrêmement surveillé. C'est réellement jamais plongé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une belle biodiversité dedans. Même si en surface. Après, je suis pas là pour dire que le port favorise la biodiversité marine. Sûrement pas. C'est l'inverse. C'est la biodiversité marine qui met en valeur le port. Et cette biodiversité marine qui s'épanouit bon an, mal an, tant bien que mal, à l'intérieur de ces zones totalement artificialisées, qui subissent plein d'impacts, parfois même des rejets chimiques, etc., qui arrivent malgré tout à s'épanouir, c'est une sorte de sentinelle. Tant que ces bestioles sont là, et c'est un garde-fou en quelque sorte, même si on a une vision très égoïste de la chose, on peut dire même que ces animaux, c'est un garde-fou pour les hommes, parce que le porc, c'est un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a plein de bestioles, mais il y a aussi des milliers d'êtres humains qui travaillent tous les jours. Moi, à leur place, le jour où il n'y a plus un poisson dans le port, il n'y a plus un crabe, je commence à m'inquiéter pour ma propre santé, quoi. Et c'est pour ça que faire en sorte que cette biodiversité marine perdure à l'intérieur des zones portuaires, eh ben, c'est aussi préserver une qualité de vie qui servira aussi aux hommes qui travaillent sur le port, quoi.
Voilà. En surface.
Ouais, exactement. Donc moi, c'est ça que j'avais envie de montrer. C'était de dire, messieurs les gestionnaires du port, maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas qu'il y a tout ça, quoi. À vous maintenant de faire en sorte que si on refait ce livre dans 5 ans ou dans 10 ans, je puisse faire que mieux, quoi. Donc les structures, elles y sont. Ce qu'il faut surtout faire gaffe maintenant, c'est la qualité de l'eau, faire gaffe à ce qui est rejeté et ce qui ne l'est pas. Vous savez, dans les années 70, c'est-à-dire les années catastrophiques d'un point de vue écologique, dans un port, on faisait n'importe quoi. Les gens faisaient la vidange de leur bateau dans le port directement. Souvent les sorties d'eau usées s'arrêtaient au bord, quoi, au lieu de se poursuivre sur des kilomètres pour être rejetées au large, très loin, et être diluées. Bon, c'est tout ça qu'il faut surveiller. Aujourd'hui, on rentre de plus en plus dans l'ère du génie environnemental. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire ça va bien ou ça va mal. Maintenant, il faut dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. L'idée, c'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Parce que, comme me disait Nicolas Hulot récemment, il me disait, de toute façon, les deux, c'est des voies sans issue. Le pessimiste, il dit, de toute façon, c'est foutu, et il fait rien. Et l'optimiste, il dit, non, mais de toute façon, ça va s'arranger, et il fait rien non plus. Donc, dans les deux cas, ce sont des résignés. Mais l'idée, c'est pas de tout miser sur le génie environnemental, mais je suis convaincu que y a quand même un génie humain qui, quand il est bien orienté, pourrait faire, de la même manière qu'il a fait des catastrophes écologiques, il pourrait faire des miracles écologiques. J'en suis convaincu. Maintenant, c'est des choix politiques, c'est des... voilà. Il se peut que d'ailleurs, un jour, ce ne soit plus des choix politiques, mais des choix de survie. Donc, il faudra bien s'y mettre.
Deux, trois, Marseille, c'est l'opération de la rédaction culturelle de la RTS. Nous sommes sur le pont de Linga des Rios. On voit quelques poissons dans l'eau. Sarah, c'est vrai que il y a désormais énormément d'initiatives pour protéger la biodiversité de Marseille. On y revient dans quelques instants. Mais tout de suite, Christine Breton, quelques mots sur cette verticalité. On est sous la montagne, on est sur l'eau et on imagine ce qui est sous nos pieds.
Oui, j'ai trouvé très très beau ce qui vient d'être dit, parce que c'est un univers là justement qui s'ouvre, et renversement de nos regards, renversement de nos valeurs aussi. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, l'eau était beaucoup moins haute ici à Marseille. Les îles qui sont là, c'était la terre, et voilà pourquoi la grotte Cosquer est sous l'eau. Et donc grotte Cosquer, grotte préhistorique, c'était hier matin. Et cette montée des eaux, ça nous là, enfin, on est dans une temporalité intéressante parce que ça nous amène justement dans ce temps dont il a parlé, ce temps d'un futur possible, hein, et d'un futur autre.
Sarah Diren, biodiversité et futur proche, hein, parce qu'on protège cette biodiversité des côtes de Marseille. C'est en tout cas ce que me confirmait Jean-Pierre Ferral, qui est directeur de recherche à la station marine d'Andoume à Marseille. Une station qui est plus que centenaire, qui est située vraiment au milieu de la baie de Marseille. Une station marine qui s'intéresse non seulement au fonctionnement cellulaire des éponges, je sais que vous les aimez beaucoup, les éponges, Nancy, mais aussi de leur écosystème. Et vous allez l'entendre, Marseille, eh bien Marseille protège sa grande bleue.
Là, on va développer un parc naturel à côté d'une mégapole. D'un côté, en fait, on a un exemple de pression, hein, qui est le port, le trafic important et qui va s'intensifier. Et de l'autre côté, on a des efforts de protection maximale de la côte. Donc là, un laboratoire comme le nôtre est au milieu de tout ça et on peut dire que c'est très bien tombé. Ici, à Marseille, on a quand même l'exemple assez extraordinaire de la réserve de la Côte Bleue, qui déjà, d'un point de vue mise en œuvre, a été exemplaire puisqu'elle a mis... Elle a permis d'associer non seulement des scientifiques, mais également des citoyens et des pêcheurs, des professionnels, pour créer et gérer cette réserve. Et il y a eu une sorte de méfiance et même de défiance, on va dire, par rapport à cette réserve, en disant « ça nous enlève tous nos droits, on n'a plus le droit de pêcher, etc. etc. » Puis, après quelques années d'installation, l'effet réserve, c'est-à-dire l'exportation de biomasse, hein, c'est-à-dire il y a eu des poissons qui avaient plus, on peut dire pour schématiser un peu, qui avaient plus assez de place dans le cadre de la réserve, se sont mis à sortir de la réserve dans les endroits qui étaient autorisés à la pêche. Et à ce moment-là, les pêcheurs se sont rendus compte qu'ils avaient plus de prise dans leur filet, plus de mise à terre. Et donc ce sont eux-mêmes, quelques temps après, qui ont demandé l'extension de la réserve. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement exemplaire. Et donc ça, c'est entre la partie est et la partie ouest du port de Marseille. De l'autre côté de la baie, maintenant, avec le nouveau parc des Calanques, je suppose qu'on va avoir droit à peu près au même phénomène, c'est-à-dire d'abord beaucoup de gens contre, et il y a eu déjà pas mal d'expressions de cette attitude. Et petit à petit, quand on verra les bénéfices, quand ils seront palpables, je pense que ça fera à peu près le même effet que dans le cas de la Côte Bleue. Enfin, on peut l'imaginer en tout cas.
Pêcher les intérêts et pas le capital, c'est-à-dire conserver cette richesse sous-marine. Sous l'eau, Christine Breton, à Marseille, il n'y a pas évidemment que des poissons. C'est de là que partent, et ça m'a vraiment étonnée, je ne le savais pas, des câbles, des tunnels de l'information.
Depuis 1985 en plus, hein, ça fait longtemps maintenant. Vous avez 13 500 km de câbles qui vont... On parlait tout à l'heure du canal. Ça part à Singapour, ça part dans l'océan Indien, etc.
Et tout part de Marseille.
Je dirais peut-être pas tout à fait ça comme ça, mais enfin oui, on pourrait le dire comme ça, on serait marseillais, quoi.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces câbles de l'information d'aujourd'hui, finalement, couvrent les routes de la grande navigation.
Tout à fait.
Colonies.
Tout à fait.
Peut-être par Madagascar, pour aller à Singapour, elle couvre les côtes africaines.
Oui, peut-être que le mot navigation a trouvé vraiment son vrai mot, son vrai sens hein, en ce moment sur tous ces câbles, justement.
Donc la Méditerranée joue son rôle d'unificatrice.
Ah, on y revient.
De trait d'union. Ça vous déplaît ?
Non, ça ne me déplaît pas. Je suis pas pour les guerres, vous savez. Parce qu'il y en a en ce moment en Méditerranée. Voilà pourquoi ces mots de trait d'union, d'unification, ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a des guerres terribles en ce moment et on ne peut pas faire fi, quoi. Bon, voilà.
On en reste là. Ces câbles, Sarah Dirène, il faut bien aller les poser. Et pour cela, à Marseille, on a une perle.
Oui, une entreprise fameuse, la Comex. La Comex qui fut pionnière dans la plongée profonde industrielle, pionnière aussi dans le développement de la physiologie hyperbare. C'est une entreprise qui a été créée par un véritable aventurier, Henri Germain Delauze, qui est vraiment cher aux Marseillais et qui a effectué ses premières plongées avec le commandant Cousteau, une figure importante, hein, Henri Germain Delauze, qui a rayonné non seulement en Marseille, mais aussi qui a été dragué dans le monde entier, notamment aux États-Unis, mais il est resté ici. Je me suis rendue dans son bureau, en fait il est décédé en début d'année. Je suis dans son bureau, dans l'immense site de la Comex à Marseille. Je suis en compagnie de Fred Gauche, qui est spécialiste en robotique marine. Le bureau d'Henri Germain Delauze est resté totalement intact. C'est un véritable musée archéologique où se côtoient des amphores de l'époque romaine avec un canon espagnol immense hein, du XVIIe siècle, des trésors archéologiques récupérés lors de plongées industrielles et Nancy, au mur, un tableau, une photographie étrange prise sous la mer.
Donc ce tableau représente en fait le sous-marin Protée, qui est un sous-marin qui gît par 120 mètres de fond au large de Cassis, que nous avons découvert à l'époque où nous cherchions ardemment l'épave de l'avion de Saint-Exupéry, après avoir, grâce à un pêcheur, retrouvé la Gourmette. Donc sur cette vue, on voit le sous-marin Rémora 2000, qui est notre sous-marin de travail actuel, en train d'explorer le sous-marin Protée. Donc à savoir que ce sous-marin, qui a été coulé pendant la Deuxième Guerre, détient encore les 71 hommes d'équipage dans ses enceintes. Donc c'est un sanctuaire, c'est vraiment un sanctuaire.
Et il est au large de Cassis.
Au large de Cassis, oui.
Alors, cette grande aventure de la Comex, elle a débuté il y a plus de 50 ans. On est dans les années 60. Bah, c'est un milieu totalement inexploré, le milieu sous-marin.
C'est un des métiers les plus récents au monde, oui, effectivement. Parce que dans les années 60... On savait plonger à quelques mètres sous l'eau, mais on ne savait pas pénétrer le milieu sous-marin plus profond. D'où l'idée d'Henri Germain Delos, qui a été d'inventer des maisons sur la mer avec des systèmes d'ascenseurs, c'est les tourelles, pour emmener les plongeurs le plus profond possible, c'est-à-dire à plusieurs centaines de mètres, voire jusqu'à plus de 700 mètres en 92, où on a effectué le record du monde.
701 mètres,
c'est exact, oui.
Donc 701 mètres dans une tourelle.
701 mètres dans une tourelle, oui, mais le plongeur, une fois arrivé à la profondeur de 701 mètres, sort de la tourelle et va dans le milieu marin travailler, parce que son but, c'est pas de regarder les petits poissons, là. C'est de travailler, c'est de souder, c'est de serrer des boulons, c'est de faire un vrai travail d'artisan au fond de la mer.
C'est un travail qui demande quoi? Et surtout à ses débuts, je pense aux années 60.
Des hommes courageux et des hommes consciencieux. À savoir que on cherchait pas des plongeurs à l'époque. Nous, on cherchait des chaudronniers, des soudeurs, et on leur apprenait à plonger. De toute façon, le métier de plongeur n'existait pas, donc il y avait tout à faire. Donc on prenait des vrais artisans qui savaient travailler et on leur apprenait à travailler dans le milieu sous-marin.
L'histoire de la Comex, elle est intimement liée au pétrole.
Tout à fait. Pour nous, c'est le pétrole qui a motivé cette descente dans la grande profondeur, oui.
Alors, une tourelle, c'est comme une grosse boule, c'est ça?
Une grosse sphère, oui. Alors, en fait, la tourelle, ça va être le moyen d'emmener le plongeur depuis la surface, où il a d'ores et déjà été comprimé dans un caisson de compression. Une fois qu'il a été comprimé dans ce caisson à la profondeur qui correspondra à la profondeur de travail, on va le mettre dans cette tourelle, cet ascenseur, donc au travers du système de sas. Il va rester toujours à la même pression. Et la tourelle va descendre au fond à la profondeur qui correspond à la pression à laquelle le plongeur a été comprimé. Une fois à cette profondeur, il peut sortir de la tourelle, effectuer ses travaux. Une fois fini ses travaux, il va remonter dans la tourelle va remonter à la surface et il va repasser dans le caisson qui est sur le navire, mais qui est toujours à la même pression que celle du fond.
Je descends à 100 mètres, il me faut que je reste 5 minutes ou 10 jours.
5 minutes ou toute la vie, il faudra le même temps de décompression, le temps que votre corps désature en gaz. Donc par chaque palier de 30 mètres de profondeur, il va falloir un jour pour remonter. Donc pour 300 mètres, il va falloir 10 jours pour remonter à la surface, pour être décomprimé, pour pouvoir sortir du caisson et retourner à la vie normale en pression atmosphérique.
Alors ça veut dire, si je l'entends bien, ça veut dire que quand un plongeur avait franchi les 701 mètres de profondeur, lorsqu'il est remonté, il est resté dans un caisson pendant 10 jours, c'est ça ?
Pendant 5 semaines il est resté. Donc il est resté dans un caisson et a été décomprimé lentement pendant quasiment 5 semaines.
Oui, mais enfin, c'est un caisson, c'est
un
une
caisson
maison.
Où il y a le minimum pour pouvoir vivre, c'est-à-dire qu'il y a des couchages, il y a de quoi aller au petit coin, il y a de quoi manger et tout ce qui permet de survivre. Ça ressemble beaucoup à un sous-marin militaire.
Alors ça, c'est...
s'éteint. Ça, c'est Clara, tourelle de plongée en acier inoxydable Uranus 50 pour deux plongeurs profondeur 460 mètres construite en 1970. Grande sphère. Quelle grandeur à peu près ?
On a une sphère qui fait 1,70 de diamètre. Donc, devant l'ascenseur à plongeur, donc la tourelle. Celle-ci date des années 70. Elle est fabriquée entièrement en inox. Aujourd'hui, aucun industriel ne se permettrait de faire.
Pourquoi ça coûte trop cher ?
L'inox est beaucoup trop onéreux, mais à l'époque, on ne lésinait pas, entre guillemets, sur la sécurité des plongeurs et on préférait mettre de l'acier deux fois plus cher et en mettre deux fois plus que de risquer un accident. Donc cette tourelle, elle abritait deux plongeurs qui, une fois à la profondeur de travail, pouvaient sortir par le sas que vous voyez en bas et aller effectuer leur travail.
Ah oui ? Mais ça, comment ça se fait que l'eau ne rentrait pas ?
Parce qu'on était à la même pression. On était à la même pression qu'à l'extérieur, donc l'eau n'a pas envie de rentrer.
C'est pas vraiment confortable.
Non, et encore, il manque les tuyaux, les manos et beaucoup d'équipements. Donc, c'est des espaces qui sont assez réduits, assez confinés. Donc, claustrophobe, s'abstenir.
Alors, comment on fait ? On jette la sphère dans l'eau et puis hop, elle descend d'un coup ? Il faut combien de temps pour arriver à 460 mètres
en l'occurrence. La sphère, elle est lourde, hein. elle est tenue par un câble à la surface et des treuils. Donc elle va descendre avec son câble. Et pour atteindre 400 mètres, il va falloir peut-être une quinzaine de minutes.
Ah, c'est pour ça que vous parlez d'ascenseur.
C'est pour ça que je parle d'ascenseur, tout à fait. C'est une cabine accrochée à un câble, c'est un ascenseur.
Faites gauche, comment va la Méditerranée aujourd'hui ? Je vous pose cette question parce que la COMEX est associée notamment avec l'Agence des aires marines protégées. Vous êtes souvent en mer pour aller contrôler un peu cette biodiversité de la Méditerranée. Elle va comment ?
Effectivement, les inventaires biologiques, ça fait partie de nos travaux, dont notamment tous les canyons qui sont le long des côtes françaises. Canyons qui sont anciennement des rivières à l'époque préhistorique, on va dire. Donc la Méditerranée, comment elle va de mes yeux, qui ne suis pas biologiste, je dirais qu'elle va plutôt bien, elle va plutôt mieux, parce qu'aujourd'hui, les rejets industriels, les rejets de navires sont quand même extrêmement limités, extrêmement contrôlés, et on arrive à trouver des sites sous-marins d'une beauté exceptionnelle et d'une richesse exceptionnelle, même à proximité de nos côtes, même à proximité de grandes villes, dont une grande ville qui est Marseille, puisqu'on est la seconde ville de France. Et on a dans les Calanques notamment des paysages de gorgones et de coraux qui sont absolument somptueux, avec des poissons qui reviennent en masse. Alors il faut faire attention, hein. Là, je parle des choses belles, il y a des choses moins belles, avec des concentrations de plastique notamment dans certains sites. Mais de mes yeux, je dirais que la Méditerranée, elle va plutôt de mieux en mieux tous les jours.
Christine Breton, je rappelle que vous êtes conservateur honoraire du patrimoine ici à Marseille. La COMEX, pour les Marseillais, une immense fierté.
Peut-être dû à ce doux mélange d'aventure et de modernité. Mais surtout, je crois, par ce mystère du dessous de l'eau et cette poétique-là. Ça me fait penser, comme nous sommes à l'Estac, j'aimerais bien vous en dire juste un petit mot en passant, que c'est ici que la CEMA, c'est-à-dire le Centre d'études marines avancées, s'est installé en 1960 avec Cousteau. Donc vous voyez, il y a une histoire déjà de ce sous-marin qui est repris d'ailleurs avec la Drasme qui vient de s'installer aussi maintenant, il y a deux, trois ans à l'Estac, qui est le service de recherche archéologique sous-marine. Et là, on a beaucoup de chercheurs en archéologie sous-marine et il y a beaucoup de choses qui sortent de sous l'eau. Pas seulement des galions, mais justement, comme disait la personne juste avant, qu'on entendait juste avant, les canyons, les rivières sous-marines. Et moi, ça me fait toujours penser à ces grottes qui sont là au-dessus de nous, hein, dans ce calcaire, et où on a découvert, mais un petit peu dans les mêmes années, des grottes préhistoriques avec des hommes. Bon, d'accord, ils se mangeaient un peu entre eux, mais on a ainsi étendu la temporalité marseillaise.
C'est tout.
C'est pas vraiment tout.
Non, je le sens dans vos yeux. Vous vous retenez de dire quelque chose ?
Oui, j'aimerais presque arriver à dire que c'est peut-être ça la forme de l'inconscient urbain. En tout cas pour moi, qui suis préoccupée de symbolique et d'essayer d'avancer dans les formes symboliques au plus loin, au plus près, essayer de mettre des mots là-dessus, sur ces formes collectives qui font que nous vivons ensemble dans un lieu donné, qu'il s'appelle Marseille, ou qu'il s'appelle Estac ici, ou qu'il s'appelle ce bateau, il y a des formes inconscientes qui nous font nous parler la même langue.
Une forme, le 8. Le 8, symboliquement, c'est l'infini. Le 8 couché sur la Terre d'ici, Sarah Diren, c'est le GR13.
C'est le GR2013. Et effectivement, on rejoint Baptiste Lanaspez, qui est donc l'instigateur de ce 8 pédestre qui fait plus de 350 km.
Bon, finalement, Baptiste Lanaspez, on aura beaucoup marché dans la ville. Dans la ville, pour parler de l'eau, pour parler de la Méditerranée, on marche dans la ville. Parce que c'est ça aussi, Marseille.
Oui. C'est d'abord cette relation entre la ville et l'eau, ça c'est sûr. C'est comme ça que la ville commence. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Grecs n'ont pas trop de problèmes avec les Gaulois au début. Parce que les Gaulois sont beaucoup plus branchés de terre et ils ne savent pas trop faire usage de la mer et du littoral. Donc quand les Grecs s'installent là, en face, là, au début, apparemment, d'après ce qu'on sait, ça n'a pas trop posé de problème. Ah, les gens qui se baignent là. Ça n'a pas trop posé de problème parce que c'est d'abord une ville effectivement tournée vers la mer. C'est un comptoir. Hein. Donc ça, sans doute que, en tout cas, topographiquement, ça persiste. Je ne sais pas si ça persiste dans la mémoire collective et dans une vraie trace historique, mais... Mais alors là, c'est pas mal, vous voyez.
C'est magnifique, parce qu'on arrive...
C'est un peu caché quand même. Donc en ça, c'est très GR 2013, et c'est à la limite du trash. Alors ça, on aime bien aussi quand on sait pas si c'est joli ou si c'est trash. Mais en fait, les gens se baignent ici. On est face au Fort Saint-Jean, donc 12e siècle. Et puis on est à un jet de pierre du Mucem, mais on le voit pas du tout parce qu'il est juste derrière le Fort Saint-Jean là. Peut-être qu'en avançant quelques mètres, on va le voir.
On va peut-être mettre nos pieds dans l'eau. Je pense que c'est la figure.
Je pense que là il y a une sorte de petit siège potentiel. Alors ça moi j'adore, hein. Ça pour moi c'est vraiment les paysages marseillais. Tiens, il y en a deux qui se bécotent sur des dalles en béton. Ça se bécote sérieusement par ici, donc ça c'est bien. Alors c'est très, pour moi c'est vraiment un paysage marseillais.
Alors attendez. Je vous rejoins parce qu'il faut avoir un certain sens de l'équilibre.
Pour mettre les pieds dans l'eau, il faut se mettre là. Regardez, moi je m'accroupis. Et vous pouvez vous asseoir là avec les pieds dans l'eau pour de vrai. Faut le faire, vous l'avez annoncé, hein, faut le faire. Je vous tiens le micro, regardez.
Voilà, tenez le micro, vous faites du bruit.
Voilà.
Là. Oh oui, elle est bonne, l'eau de Marseille. Alors, paysage marseillais.
Alors, pour moi, c'est un pur paysage marseillais ici, donc c'est pas le plus connu. On est en face du Fort Saint-Jean. En face, il y a la petite promenade autour du Fort Saint-Jean qui vient d'être réouverte au public et qui est un des musts. Si vous n'y êtes pas allé, faites-le ça, hein, d'aller vous promener autour du Fort Saint-Jean. C'est très très agréable. Et là, on est en face, dans un endroit un peu étrange. Donc il y a des barrières, il y a des grillages, il y a le grand hôtel Sofitel ici qui est là, il y a le Faro. On n'arrive pas à comprendre si c'est un espace public ou privé. Les gens sont là, ils boivent des bières, ils passent des coups de téléphone, ils pêchent, ils se bécotent sur des dalles en béton.
Et puis certains plus loin nagent, elle est un peu quand même un peu froide.
Ça, ouais, vous avez raison, je n'avais même pas vu dans le soleil, les gens nagent, fument un joint là-bas je pense aussi. Là on voit le bout de la digue du Large où il y a d'ailleurs une installation actuellement parce que c'est la capitale de la culture, donc c'est Kaderatia, une œuvre assez belle. Et on voit la sortie du port, donc le tout petit espace là c'est la sortie du vieux port. Et j'aime bien cet endroit qui est à la fois sublime selon comment on le regarde et un peu tout cassé aussi. Et ça c'est un peu à l'image de Marseille. C'est un petit paradis, un petit peu déglingué aussi. On a un vieux canon au-dessus de nous avec des herbes qui poussent sur une vieille muraille. Et puis ces rochers, là, ils sont agréables, ils sont chouettes comme tout, mais ils sont pas du tout naturels. Donc c'est une digue qui a été posée là par, j'imagine, des camions. Et donc ce drôle de mélange qui parle d'art de vivre et d'artifice et de nature et de tout ça à la fois, un peu chaotique. Il y a un crabe. Vous le voyez là ? Hop là.
Ah bah oui, il y en a
même deux.
Il y en a même deux.
Ouais, et même plein de moules en dessous. Wow. C'est votre coin, monsieur ?
Oui.
En général, qu'est-ce que vous pêchez ?
T'as les loups, t'as des sèches, des poulpes, tout ce qui est poisson mangeable.
Alors, j'achète jamais le poisson. J'ai 54 ans, j'ai jamais acheté un poisson.
Ah, vous allez plonger, là. Et vous avez un harpon.
Oui.
Faut plonger profond.
Oui. 7 mètres.
7 mètres?
Oui.
Et vous y allez comme ça?
Hein? Je suis habitué, l'hiver comme l'été. Eh oui, sans combinaison, sans rien, oui.
Et voilà, vous avez votre petit sac accroché.
Je veux pas prendre toute la mer.
Ah non.
Ça me suffit, 3, 4, c'est bon, hein, pour faire le méchoui le soir.
Ah, les flics en face.
Normalement, c'est interdit. Hein.
Ah vous n'avez pas le droit de pêcher?
Oui. Nous, Marseillais, il n'y a pas de problème, hein. On est habitués.
Ah bah, la ville rebelle.
Christine Breton, Marseille, la vie rebelle.
Oui, on le dit beaucoup.
C'est drôle, j'ai fait un lapsus, j'ai dit la vie et pas la ville. Mmh. Mais c'est les deux.
Mmh. Et puis des fois, on peut dire aussi belle et rebelle. Bon. Mais oui, rebelle peut-être à cause de la géographie, mais même chose, je ne me laisserai pas volontiers enfermer dans cette histoire-là de rébellion, parce qu'on ne peut pas dire que la ville aujourd'hui est rebelle. Quand vous la regardez et quand vous voyez la vie est politique et sociale et urbanistique dans cette ville aujourd'hui, il n'y a rien de rebelle. Je me demande même des fois si l'image de rebelle n'est pas faite pour cacher une espèce de médiocratie qui est notre quotidien. Hein. Une fois que le soleil est passé et que l'été est passé et qu'on se retrouve en hiver, il y a beaucoup de ça. Bon... C'est toujours difficile aussi de dire des choses comme ça, parce que ça fait... elle fait ça maligne. Bon. Mais je crois quand même qu'on est en train de louper des coches. Et c'est bien dommage. Donc, youpi qu'il y ait eu cette aventure de l'année européenne de la culture, parce que ça nous a ouvert le tout petit vasistas qui s'ouvrait. Surtout nous, ici, dans les quartiers où nous sommes, où vous êtes posés avec ce bateau, les quartiers nord de Marseille, sont des quartiers pauvres, des quartiers où il y a des urgences. Et je ne mélangerai pas l'urgence et la rébellion, ou je ne confondrai pas les deux. Je crois qu'il faut vraiment qu'on dise qu'il y a des urgences et puis que ça suffit, quoi, les blablas, et qu'il faut faire des choses, sortir des formes quand on est des artistes, faire de la politique quand on est des politiques, prendre sa responsabilité quand on est comme moi conservateur du patrimoine. Voilà, ça c'est des choses qui me tiennent plus à cœur que cette histoire de rebelle par rebelle, vous voyez.
À côté de nous, Yes We Camp.
Ah oui, tout à fait.
Le premier camping de Marseille, il n'y en avait pas, et là c'est un camping éphémère.
Oui, il n'y en avait pas dans ces quartiers. Il faut que vous sachiez que vous êtes dans le 16e arrondissement, il n'y en avait pas dans le 15e non plus. Vous avez juste un hôtel de type industriel qui se trouve à côté de l'hôpital Nord pour les familles quand ils viennent voir leurs parents. Donc vous voyez cette urgence dont je parlais, et c'est pareil sur les équipements culturels, c'est la même chose. Donc quand ces jeunes viennent ici mettre Yes We Camp, moi j'entends. Pas seulement cette espèce de débordement d'imagination, parce que c'est absolument magnifique, il faut que chacun, vos auditeurs viennent camper ici, c'est superbe. Vous campez sur le gazon est posé sur des plaques de métal, c'est superbe.
Mmh, bon. Et puis il y a des jardins potagers, ils recyclent leur eau, enfin, c'est plein d'imagination, c'est magnifique, c'est fait par des jeunes étudiants en architecture, ils sont tous bénévoles.
En tout. Donc moi je suis heureuse de voir ça, mais surtout ce que j'entends avec ce Yes We Camp, ça y est, oui, nous prenons la ville. Oui, nous développons des espaces urbains autres. Oui, nous avons une réflexion commune sur cette ville, mais surtout, oui, nous ne voulons pas être séparés dans les différentes parties de la ville, parce que cette partie nord de la ville a été séparée, a été la poubelle de la ville. Donc, s'il vous plaît, avec Yes We Camp, youpi, merci messieurs les jeunes gens qui faites ça. Et c'est pas seulement, vous voyez, c'est par rapport à Rebelle, c'est pareil. C'est pas seulement délicieusement décoratif. C'est un vrai parti pris. Et je les en remercie beaucoup, moi, de mon côté.
Christine, j'ai pas aidé. Dans quelques instants, à la fin de Babylone, vous allez partir en compagnie de Sarah Diren. Où est-ce que vous l'emmenez?
Je vais l'emmener aux Égalades, si elle veut bien. Alors, vous savez, le propriétaire de ce bateau, il est aussi des Égalades.
Et c'est assez drôle. Mais on va partir auprès d'un ruisseau, qui est le ruisseau des Égalades, qui est le ruisseau nord-sud, et qui est une sorte de petite antenne du port, une sorte de remontée depuis ce canal-là du Rove, dans lequel nous sommes appareillés.
Oui, et puis surtout, il n'y a peut-être pas de camping dans les Égalades, dans les quartiers nord, mais il y a des chambres d'hôtes. Et vous avez, avec des habitants des quartiers nord, vous avez, Christine Breton, monté un projet extraordinaire qui s'appelle l'Hôtel du Nord. Qu'est-ce que c'est, rapidement ?
Rapidement, c'est une co-invention entre des habitants, quelques élus, moi-même en tant que conservateur du patrimoine, autour de la notion de patrimoine. Ce sont des chambres chez les habitants et les habitants accueillent les gens, pas seulement pour leur faire le petit-déj et les mettre dans un lit, mais aussi pour leur montrer ce qu'ils appellent, eux, le patrimoine. Et c'est là où ça devient très, très intéressant parce que, eh ben, moi, il y a des fois où le patrimoine montré par les habitants ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai appris à l'école et j'en suis très, très heureuse. C'est ce qui me permet d'ailleurs d'avoir beaucoup de plaisir à l'exercice de mon métier.
Tout à l'heure, sur Espace 2, rendez-vous avec Entre les Lignes. Catherine Fatbert reçoit encore un auteur. Toute cette semaine, ils reçoivent des auteurs de Marseille. C'est André Fortin. Le connaissez-vous, Christine Breton ?
Ça, c'est aussi une très grande énergie qu'il y a dans cette ville, dans la littérature policière. Il en fait partie, avec bien d'autres. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen de connaître la ville.
Grâce au polar, Catherine Fatbert le reçoit pour rester dans l'ombre. On essaiera de faire un peu de lumière là-dessus. Aujourd'hui, dans Babylone, il y avait Sarah Diren, Nancy Psilantis, dans une réalisation signée Didier Rossa. Michael Lapeyre a fait plein d'images. Vous pourrez les retrouver sur le site de 123 Soleil. C'est rts.ch/Marseille. Que vous dire encore, c'est que je me suis trompée, que c'est 123 Marseille. Mais et l'un ne va pas sans l'autre. Merci à tous et on se réjouit de vous retrouver demain.
C'est à cause du bateau.
C'est à cause du bateau, oui, c'est ça que je voulais vous dire encore. Merci à Jean-Marc et Caroline de Linga des Rioux qui nous ont accueillis pendant toute cette heure sur ce merveilleux bateau finlandais construit en 1928. Demain, Babylone donc sera dans les quartiers nord. Sarah Diren en compagnie de Christine Breton et de plein d'autres invités. Et si vous désirez voir des images, il y a en ce moment le réalisateur suisse Nicolas Vadimov qui relève le défi. 72 heures pour tourner un mini long métrage de 5 minutes avec Yvan Sorel, champion de MMA, c'est-à-dire de Free Fight. Demain soir, à part Babylone qui commence à 9h, vous pourrez retrouver toute cette opération dans les matinales. Et demain soir, il y aura une soirée spéciale avec Charles Sigel, Alexandre Barlet, ainsi que la puce à l'oreille sur la RTS1.
1, 2, 3, Marseille.
Vous écoutez Espace 2, merci, il est 10h.